sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Comment apaiser les relations entre manifestants et forces de l'ordre? Depuis 3 mois en France, le mouvement des Gilets jaunes avec ses images de violence est au cœur de tous les débats. Dans les débats aussi, l'utilisation des armes de force intermédiaires, les fameux lanceurs de balles notamment, qui ont fait de très nombreux blessés. Les Nations Unies et le Parlement européen ont d'ailleurs appelé la France à revoir sa politique de maintien de l'ordre. Alors, comment nos voisins, eux, gèrent-ils les mouvements de contestation? L'utilisation des LDB est totalement prohibée par les forces britanniques et belges. En Allemagne, non seulement c'est interdit, mais depuis plus de 30 ans, outre-Rhin, on a choisi la stratégie dite de désescalade. Reportage à Berlin de Julien Michaussi.
Stuttgart, dans le sud du pays, des lycéens manifestent contre une réforme scolaire. Plusieurs d'entre eux tentent de frapper un petit groupe de policiers, pourtant casqués et habillés de protections impressionnantes. Les policiers s'efforcent de repousser les assaillants, certes avec détermination, mais sans recourir à leurs armes. La scène dure une dizaine de secondes, puis les manifestants rebroussent chemin. Un dénouement heureux, résultat de la stratégie de désescalade, selon Benjamin Yendro, du syndicat berlinois de police, GDP.
Nous le voyons parfaitement sur cette intervention des collègues. Pendant quelques secondes, la situation aurait pu s'envenimer. Par exemple, s'ils avaient tout de suite sorti leur matraque et porté des coups aux manifestants. Alors qu'ici, au bout d'une minute, le calme est revenu. Et c'est notre objectif premier, que tout le monde reste calme. Ici, la stratégie de désescalade a fonctionné. Il faut bien avoir en tête que les collègues ne vont pas à une manifestation pour la bagarre. Leur mission est que la manifestation se déroule dans le calme.
En Allemagne, la volonté de désescalade remonte aux années 80. Elle a été alors officialisée par une décision du tribunal constitutionnel, laquelle encourage la police à éviter toute confrontation physique, même avec des manifestants hostiles. Vu d'ici, les blessures causées par les lanceurs de balles de défense lors des rassemblements de gilets jaunes fait face à l'incompréhension. Des armes qui sont bannies dans la grande majorité des Länder.
Les balles en caoutchouc sont tout simplement dangereuses. On ne peut pas mettre de côté les risques. Il s'agit de projectiles qui peuvent tuer. Nous sommes de manière générale pour un usage des armes réduit au minimum. Bien sûr que le recours à un lanceur de balles de défense sera toujours préférable à des balles de 9 mm. Mais l'usage d'une telle arme irait à l'encontre de notre compréhension d'une police d'un État démocratique. Il est inimaginable pour moi de tirer des balles en caoutchouc dans une foule.
Le recours au canon à eau et même au gaz lacrymogène est également évité. L'accent étant mis sur la communication avec notamment des équipes anti-conflit, des policiers en civil facilement identifiables qui interviennent par le dialogue avant les violences. Des leçons tirées des décès de manifestants au milieu des années 80 et de manifestations extrêmement violentes comme le 1er mai.
Ah, guten Morgen, kommen Sie rein.
Quartier de Neukölln à Berlin, l'avocat Lucas Steune nous ouvre les portes de son cabinet. Il défend en majorité des victimes de violences policières. S'il salue également la stratégie de désescalade, il rappelle que ce serait une erreur de tomber dans l'angélisme.
J'accompagne actuellement un client qui a été arrêté après une manifestation. Les policiers l'ont fait monter dans un fourgon. Une fois les portes fermées, un policier l'a frappé plusieurs fois au visage alors qu'il était menotté. Ce n'est qu'une fois que les autres policiers ont remarqué que le fourgon remuait et qu'ils sont intervenus, que les coups ont cessé. Mais il n'y avait que le policier et mon client dans le fourgon. Comme souvent, il est difficile dans ces conditions de prouver les violences au tribunal.
Lucas Steune dénonce également le revers de la médaille de cette stratégie.
Le recours aux caméras de vidéosurveillance explose. À chaque manifestation, des policiers postés sur les toits d'immeubles, sur des balcons, filment tout le rassemblement. Ces images sont souvent évaluées bien après la manifestation. Il se peut donc que vous soyez arrêté des semaines plus tard parce que vous avez juste porté une cagoule lors d'une manifestation. C'est un système perfide. D'après ce que je sais en France, vous n'avez pas à avoir peur d'une arrestation pour des motifs futiles des semaines après. C'est une répression qui est difficilement acceptable.
Les forces de l'ordre françaises peuvent-elles tirer des enseignements l'accompagnement de ses homologues allemandes. Politologue à l'Université libre de Berlin et auteur d'ouvrages sur le droit à la protestation, Tim Wiehl observe de près les violences des derniers mois en France.
Mon message à l'intention des forces de l'ordre françaises risque d'être mal accueilli, mais je vais tout de même oser. À mes yeux, il faudrait qu'elles soient moins armées pour renouer le contact avec la population. Cela doit s'inscrire dans le cadre d'une grande discussion publique sur la démilitarisation de la police française, sur une présence dans les rues beaucoup moins martiale. Tout cela permettrait de donner l'image de policiers qui sont là pour protéger les manifestants et non pas les combattre.
Si les violences dans les manifestations sont en baisse constante en Allemagne, Tim Wiehl souligne qu'il serait faux de mettre cela sur le seul compte des forces de l'ordre.
De nombreuses études tendent à démontrer que les chiffres sur la violence dépendent plus de facteurs externes que de la stratégie même de la police. Quel type de manifestants sont dans la rue? Est-ce une période de crise économique? Le peuple est-il solidaire des manifestants? Quel est le rapport des manifestants à la puissance étatique, à la police? Tous ces facteurs réunis jouent un rôle bien plus important que les seules techniques de maintien de l'ordre.
Si la stratégie de désescalade est appliquée à des niveaux divers selon les Länder, elle fait cependant consensus parmi tous les responsables politiques. Le Sénat du Land de Berlin prépare actuellement une nouvelle législation sur le droit de réunion, avec pour objectif annoncé la décriminalisation de certains comportements comme dissimuler son visage derrière une cagoule et éviter ainsi des heurts qui pourraient dégénérer.
L'Espagne a suivi le mouvement au début des années 2010 avec la création d'un département de médiation composé de policiers formés en psychologie ou en sociologie. Voilà pour la théorie, car il y a 4 ans, une nouvelle loi sur la sécurité publique a permis aux policiers d'agir avec beaucoup plus de liberté. On a pu le voir dernièrement lors des manifestations catalanes et du référendum sur l'indépendance en octobre 2017. Les forces de l'ordre n'ont pas hésité à charger brutalement. Bilan 800 blessés, Diane Cambon. On nous appelle de Madrid.
En Espagne, la police n'a en général pas bonne réputation. Les passages à tabac, très violents lors des manifestations, sont des scènes qui se reproduisent souvent. Les dernières images filmées et qui ont fait le tour des réseaux sociaux, mais aussi des télévisions du monde entier, sont celles prises durant le référendum catalan en octobre 2017. Des dizaines de policiers chargent une foule d'électeurs voulant accéder à un bureau de vote. Enfants, personnes âgées sont prises comme cible alors qu'ils s'étaient rendus pacifiquement aux urnes, même si le référendum en soi était illégal. On se souvient aussi des charges policières très impressionnantes à Madrid en 2015 contre des manifestants venus protester contre les restrictions budgétaires. Cette fois, la presse est aussi prise à partie, et notamment les photographes et les caméramans. C'est à la suite de ces manifestations que le gouvernement de Mariano Rajoy décide de créer une nouvelle loi sur la sécurité publique, renforçant ainsi le rôle des policiers. Le but est également de dissuader les esprits les plus rebelles avec des peines conséquentes. Le fait de photographier un policier en service pendant une manifestation peut coûter jusqu'à 600 euros. Le fait de protester face au Sénat devant la Chambre nationale des députés à Madrid ou tout parlement régional peut être puni de 30 000 euros d'amende. Tout comme brûler un conteneur ou encore refuser de décliner son identité à un agent des forces de l'ordre. Et si on est à l'origine de l'organisation d'une activité festive dans un endroit proscrit par les autorités, on risque jusqu'à 600 000 euros de contravention. Baptisée par ses détracteurs comme la loi Mordaza, la loi Bayon, cette mesure cherche à restaurer le prestige de la police via l'intimidation. Le socialiste Pedro Sanchez, alors dans l'opposition, avait promis de la déroger. Arrivé au pouvoir en juin, le leader de la gauche lance une commission l'automne dernier pour modifier les points les plus polémiques. Mais son mandat risque d'être trop court. Les élections anticipées, prévues fin avril, ne lui laisseront pas le temps de changer cette loi, considérée par beaucoup comme liberticide.
En Roumanie, après la période trouble de la révolution de 1989 et des années 90 marquées par une répression féroce des rassemblements, Le pays connaissait depuis des manifestations plutôt pacifiques, mais le spectre des violences policières a ressurgi en août dernier quand des rassemblements ont été organisés contre le gouvernement Benjamin Ribou.
Le 10 août dernier est organisée à Bucarest une manifestation de la diaspora, celle des Roumains vivant à l'étranger. Les manifestants veulent alors relayer l'action des Roumains restés au pays et qui depuis plus d'un an et demi s'opposent à la réforme du système judiciaire que l'exécutif tente de faire passer en force. Ce jour-là, ils sont nombreux, environ 80 000 à débouler dans la capitale. Rendez-vous, place de la Victoire, devant le siège du gouvernement, lieu de toutes les manifestations de ces derniers mois. Un millier de gendarmes et de policiers anti-émeutes sont dépêchés. La diaspora roumaine, très importante, on parle de plus de 3 millions de personnes, est réputée anti-PSD du nom du parti au pouvoir. On les sait très remontés après le limogeage quelques semaines auparavant de la chef du parquet anticorruption, Laura Codruța-Kövesi. Certains manifestants tentent de traverser les cordons de sécurité installés autour du siège du gouvernement. D'autres lancent des bouteilles et des pavés sur la police. À coups de matraque, mais aussi de gaz lacrymogène et de canons à eau, les autorités évacuent en force la place de la Victoire. Au total, 560 personnes sont hospitalisées. En face, on dénonce des provocations et une trentaine de gendarmes sont eux aussi hospitalisés, victimes des jets de pierres et de bouteilles. Depuis le début de la gronde anti-gouvernement, début 2017, c'est la première manifestation qui dégénère de la sorte et les réactions ne se sont pas fait attendre pour dénoncer la violence excessive des forces de l'ordre. Une enquête judiciaire est ouverte pour faire la lumière sur la répression. À ce jour, près de 800 plaintes ont été déposées au pénal par des victimes, tandis que le parquet poursuit notamment le chef de la gendarmerie et des cadres du ministère de l'Intérieur pour abus de service. 6 mois après les faits, le gouvernement qui joue gros est accusé de faire traîner les choses. Il vient récemment de solliciter une inspection pour sanctionner les procureurs militaires enquêtant sur les violences. Une énième tentative d'intimidation de la part d'un exécutif qui voit dans ces manifestations la patte de puissance extérieure comme du temps de la révolution de 1989.
News on the march.
Bonjour Sébastien Hervieux.
Bonjour Catherine.
Alors, c'est avec vous qu'on feuillette Courrier International cette semaine. Et à la une, hein, Léonard Superstar, 500 ans après sa mort, le génie italien Léonard de Vinci continue d'inspirer de nombreux artistes, de fasciner les médias et vous raconter qu'aucun autre artiste n'a jamais fait l'objet d'une telle admiration.
Ah oui Catherine, c'est l'hebdomadaire allemand Die Zeit qui s'est penché sur le mythe si fascinant de Léonard de Vinci. On ne compte plus les livres, les émissions qui lui sont consacrées. Je cite le journal, c'est un artiste à la fois bas de gamme et haut de gamme. Il se retrouve aussi bien sur des tasses à café que sur des reproductions de qualité. Et pourtant, à son époque, Léonard de Vinci n'était pas vraiment vu comme un artiste si brillant. Die Zeit le dit tout de go. De Vinci n'a pas vraiment réussi. Il liste tous ses ratés. Il concevait des plans fabuleux qui ne débouchaient sur rien. Nombre de ses œuvres d'art sont restées inachevées. Il dit même avoir rédigé 120 livres, mais aucun d'entre eux n'a été publié.
Alors, selon Die Zeit, Sébastien, pourquoi Léonard de Vinci séduit tant aujourd'hui ?
Car c'était, selon l'hebdomadaire allemand, un génie dans l'échec. C'est cela qui plaît aujourd'hui. Il ne se fixait sur rien ni personne. Il ne voulait pas seulement être géographe, géologue, biologiste, physicien, constructeur de machines, peintre ou sculpteur. Il voulait tout faire. Il aimait changer de bobine, résume Die Zeit. Mais plus Léonard découpait, mesurait et dessinait, moins il était satisfait de ses conclusions. Alors pour l'hebdomadaire, c'était bien un crack de l'esprit, mais il était surtout rongé par le doute.
Sébastien, dans le numéro de cette semaine, vous reprenez aussi un article qui raconte l'histoire de Shamima Begum, cette adolescente londonienne qui était partie en 2015 à 15 ans rejoindre le groupe État islamique en Syrie.
Oui, Catherine, c'est un journaliste du Times qui a retrouvé la jeune fille, aujourd'hui âgée de 19 ans, dans un camp de réfugiés syriens. Et son récit a suscité l'émoi et l'indignation outre-Manche, car Shamima Begum veut désormais rentrer en Angleterre. Elle raconte au journaliste son séjour de 4 ans. À son arrivée à Raqqa, elle s'est mariée à un combattant de l'État islamique néerlandais. C'était la plupart du temps une vie normale, avec de temps en temps des bombardements, décrit-elle. Mais pas que, elle explique avec ces mots terribles. La première fois que j'ai trouvé une tête dans la poubelle, ça ne m'a rien fait, car c'était un combattant ennemi de l'islam.
Et oui, pourtant, elle a fini par s'enfuir.
Ah oui, Catherine, elle n'avait plus vraiment le choix. Ses deux premiers enfants nés là-bas sont morts de maladie. Son mari avait été fait prisonnier. Et la dernière poche de résistance de l'État islamique allait tomber. Pour elle, le califat est fini. Je la cite, il y avait tellement d'oppression et de corruption que je ne pense pas qu'il méritait la victoire. Aujourd'hui, elle vient d'accoucher dans ce camp de son troisième enfant. Elle dit qu'elle veut pouvoir rentrer à la maison, mais la question qui se pose désormais, c'est la Grande-Bretagne voudra-t-elle d'elle ?
Autre sujet, un courrier revient aussi sur l'agression contre Alain Finkielkraut par des gilets jaunes.
Oui Catherine, le quotidien belge Le Soir s'indigne de ce qui s'est passé, il appelle à un sursaut. Les images du lynchage verbal du philosophe, parce qu'il est juif, par une horde vociférant sa haine à visage découvert, sont proprement terrifiantes, juge le journal. Pour le quotidien, cela va bien plus loin que la jacquerie des gilets jaunes. Il rappelle que les actes antisémites ont bondi de 74% en France l'an passé. Et ce phénomène touche aussi la Belgique. C'est le deuxième pays européen derrière la France où les citoyens juifs se sentent le moins en sécurité. Le Soir réclame un effort massif en termes d'éducation et de sensibilisation. Et le journal de conclure, si l'on ne décide pas de défendre les juifs, c'est qu'on aura cessé de défendre l'humanité.
Enfin, à 3 mois des élections européennes, vous avez sélectionné un article de l'hebdomadaire Politico qui fait ses pronostics, notamment sur l'influence de la France.
Ah oui, la rédaction du journal américain basée à Bruxelles raconte que les députés français au Parlement européen redoutent de ne plus peser bien lourd. Nous sommes face à une catastrophe, a dit même l'un d'entre eux. Selon les sondages, les deux grands partis traditionnels français, les Républicains et le Parti Socialiste, verront leur nombre de députés être divisé par 2 ou 3. Résultat, ils seront privés de postes importants dans les instances de l'Union européenne. Alors la République en marche d'Emmanuel Macron devrait combler un peu ce vide, mais Politico craint surtout le succès annoncé des mouvements eurosceptiques, en particulier du Rassemblement national de Marine Le Pen.
Voilà, cet article et tous les autres à lire dans Courrier International. Merci Sébastien et à bientôt.
À bientôt.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors vous nous faites découvrir aujourd'hui un jeune combo norvégien adepte de manga.
Ah bah, vous connaissez peut-être Pompoko, le film d'animation produit par le mythique studio Ghibli en 1994. Eh bien il va falloir désormais compter sur un autre Pompoko, un jeune quatuor norvégien qui a emprunté son nom au dessin animé et fait sienne l'énergie et l'inventivité débridée qui le traverse en y ajoutant une pointe d'insolence, une insolence qui est inscrite dans l'acte de naissance même du groupe formé par 4 amis alors qu'ils étudiaient le jazz à Trondheim. Un festival de littérature avait alors proposé au bassiste Jonas Krovel de réunir quelques musiciens pour un concert de jazz. Une commande aussitôt détournée puisque Jonas et ses 3 amis livrèrent un concert de punk qui fit fuir la majorité du public. C'est le premier d'une série de concerts qui vont vite imposer Pompoko comme un groupe à suivre, ce que confirme aujourd'hui la sortie de leur premier album, Birthday, condensé, énergique, d'influence, éclectique et électrique.
Du premier album des Norvégiens Pompoko et c'est sur ces notes électriques que nous allons nous quitter. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation et à la mise en onde, bien évidemment, Françoise Grelot.